je comprends bien que dans un marché en expansion européenne, mondiale, par laquelle pratiquement différents acteurs arrivent à concurrencer les niches qui étaient plutôt valorisantes, stratégiques, comme l'ingénierie de l'informatique, etc., etc., il y a effectivement une réduction des coûts pour gagner des espaces, d'accord. Et donc, cette réduction des coûts, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on réduit la qualité et on met en place le système que vous dites sur la pression de la productivité à travers cet mécanisme qui est aussi le chômage des masses, parce qu'on s'expliquera autrement. Mais la chose que je veux dire, que par contre, il y a des nouveaux segments que, justement à partir de la crise de la qualité, ils sont en train de se régénérer.
Oui.
Par exemple, une chose que moi j'ai notée, très 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 banale, hein, c'est peut-être que c'est un truc oral, c'est-à-dire que je pense bout de téléphone, pour le jeune téléphone, banal, aujourd'hui j'ai un problème, j'ai appelé, c'est toujours le même, donc 4-5-1, pour avoir un service, un bordel, inexplicable, etc. Et à fur et à mesure que le temps est passé, c'est pratiquement tout l'appel d'une personne qui, à un moment donné, t'as envie de lui donner un bisou parce qu'elle est gentille, elle est sympathique.
Attends,
je veux dire, il intervient immédiatement, il me fait des trucs, etc., etc. Et l'autre chose, c'est-à-dire que la différenciation des services passe aussi par l'introduction de cet rapport humain ou cette qualité des services autour de ces petits objets. Est-ce que c'est simplement une stratégie marketing ou c'est-à-dire ils commencent à se former des nouvelles pistes de développement des services? C'est du théâtre.
Mais si tu veux, Bouygues,
c'est intéressant ce que tu as dit,
parce que Bouygues, ils sont dans une position dans laquelle effectivement ils doivent conquérir de parts de marché, etc., par rapport à une stratégie différente. Mais une fois qu'ils sont traînés à la limite par la sauve à dominer le marché, comme est passé en troisième position, bon, maintenant on a le client, et maintenant on sait combien on arrive à faire de la marche et à économiser les coûts. C'est vraiment, on le voit, c'est cyclique. Effectivement, avec Télécom, tu as vu les opérateurs alternatifs. Bon, au départ, c'était le bordel parce qu'ils devaient structurer leur process. Une fois qu'ils ont embauché des gens chez des opérateurs dominants qui connaissaient les process, donc ils ont investi parce qu'il était un opérateur plus payé, et enfin les process se stabilisaient, dès qu'ils sont commencés à monter, on est dans un marché, la qualité de service c'est quelque chose qui est un prix qui se vend et qui s'achète. Il y a même des cabinets qui surveillent la qualité de service, etc. Et il y en a beaucoup qui sont aussi financés par ceux qui sont observés. Donc, c'est la nouvelle économie, face de l'économie capitaliste moderne, à mon avis.
Moi, je voulais revenir sur l'histoire de comparaison avec la chaîne.
Moi, j'étais dans une société américaine, il y avait trois sociétés qui faisaient des opérateurs mondiaux et qui avaient le monopole de fer. Ils se mettaient d'accord sur les prix, sur les tarifs, la même chose qu'ils font les opérateurs en face. Un jour, Reagan est arrivé et a dit, bon, maintenant, c'est fini. On donne la liberté à tous les opérateurs de faire du commerce de télécom mondial. Voilà. Il y a 15 ans. Mais donc, petit à petit, il y a 20 ans, ben, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il y a eu 60 opérateurs mondiaux, après, boum, boum, vous avez le droit à trois monopoles. Là, vraiment, le problème, c'est que les gens voient tout ça. À une époque, tu pouvais camoufler, etc.
Dans les secteurs de la télécommunication.
Dans l'informatique aussi.
Dans l'informatique et les services liés avec le gérance, etc., dont la réalité est en train de se construire des véritables oligopoles. C'est-à-dire, et que donc, pratiquement, si je réfléchis par rapport à tout cet ensemble d'éléments que vous donnez, c'est un peu dire, dans la réalité, c'est-à-dire la concurrence n'existe pas, c'est des stratégies d'ajustement. Par contre, c'est-à-dire, il y a un peu d'un rêve, c'est la rentabilité. La rentabilité, pratiquement, on le trouve avec un battement des coûts, c'est-à-dire une compression du personnel, des frais, etc. Tout le process de réorganisation s'introduit dans cette notion, et que donc on vérifie dans l'espace des vies quotidiennes, car un mètre carré, c'est un mètre carré dans le plus général du directeur financier, et que l'ensemble des coûts fait qu'il y a des marges. Alors, et à l'intérieur de ce processus, évidemment, l'homme, c'est-à-dire qu'avant c'était l'ingénieur qui avait une certaine qualité, etc., ou le consultant qui était une personne relativement de prestige, parce qu'on fixait pas seulement la compétence, mais aussi la culture, au fond, c'était une expérience plus une technique, dont la réalité devient une espèce de technicien général par laquelle lui-même s'organise, organise des temps, etc., et absorbe toute cette tension, à tel point que, vu que ce processus est induit aussi à l'extérieur, la souffrance, ou tout au même l'élément de dureté de la vie, fait que, c'est-à-dire, ben, on l'absorbe. Et vu qu'à l'extérieur, parce que c'est un peu notre réflexion, est-ce que c'est effectivement l'organisme du travail qui la souffrance, ou c'est parce qu'à l'extérieur, le mode de production a cassé la vie, pratiquement contre les deux éléments, c'est-à-dire la destruction de la vie extérieure, la sphère personnelle, qui évidemment se croise à l'intérieur de la sphère du travail, éclate, évidemment, il y a des personnes qui sont dans le pit sidéral, donc la souffrance est t'as plus l'identification du boulot parce qu'il n'y a plus de gratification, t'es toujours stressé parce que tu dois travailler, tu n'as plus le temps à venir pour trouver le temps pour trouver une nouvelle relation, et si à chaque fois ça va mal, c'est un bordel pour la
gratitude. Donc, il y a, juste pour parler, il y a aussi la formation de la femme dans la société, parce que parfois, l'une des collègues elle disait au profil de travail, je peux la poser. Après, quand je sors, les enfants, les cornes, les cours, elle se fatiguait plus à l'extérieur. Que venir à travailler, malgré le stress,
il y a tout ça. Quand on se voit les langues sur les conditions, effectivement, de la.
T'as plus de séparation entre, si tu veux, l'environnement extérieur au travail et celui du travail. Tu retrouves à peu près, si tu veux, la même pression. La même pression, parce qu'il faut aller plus vite, il faut les communiquer. La famille, c'est devenu le bilan familial. Donc là encore, les fonds financiers qui priment, etc. Et donc, bon, il y a un peu de la façon personnelle de réagir, il y a quelque chose qui peut fragiliser à moi, et pas à elle, ou pas à l'autre. Et il y a le moment de rupture, où tout se casse, ça peut avoir des conséquences terribles.
C'est un deux mots, c'est-à-dire le contrôle plus général.
Non, mais ce que je voulais. Ça y est, je
tue. Ah, vas-y.
Je suis une meurtrière. Je me rappelle de Charlie Chaplin et d'Eric, qui est des présences de l'usine. En fait, il y a les cadences de l'usine qui sont effectivement des bruits périodiques. Je ne sais pas, je ne suis pas psychologue ni médecin, si c'est plus facile de faire abstraction et de s'échapper de quelque chose qui est périodique, c'est-à-dire on s'attend à ce que ça revienne, que quelque chose qui est sans arrêt interruptible, c'est-à-dire les SMS, les coups de fil, les communicateurs, les messages qui arrivent sans arrêt sur votre messagerie, etc. Le fait d'être en permanence interruptible. Et ça, c'est ce que je pense que moi, c'est ce que je vis comme la plus grande différence entre le travail que je faisais de FUS il y a 15 ans. Puisque il y a 15 ans, c'était le début de l'Internet au sens grand public du terme. Et de ce que je vivais avant et aujourd'hui. C'est le fait d'être tout le temps interruptif.
Oui, voilà, il n'y a plus de césure.
Il n'y a plus de césure et puis ce n'est pas du tout prédictible. Le bruit de la machine qui tourne ou de l'usine, c'est quelque chose où... Je ne suis pas psy, hein, mais je me demande si on ne peut pas y faire abstraction. De même que il y a les gouttes d'eau dans le lavabo, ça peut rendre fou et c'est des instruments de torture aussi, hein, vous le savez. Mais je ne sais pas si c'est pire d'avoir quelque chose qui vient sans arrêt ou si c'est pire d'avoir quelque chose qui vient mais on ne sait jamais quand.
Je pense qu'il y a les deux qui font souffrir. C'est la psychologie du travail basique qu'on connaît dans la chaîne de montage, la cadence répétitive permettait de ne pas penser. Et cela, c'était aussi une manière de fuir. C'est pour cela que certains tailloriennes, ils étaient contre la recomposition des tâches. Chez vous, la souffrance vient du fait que vous avez c'est une injonction paradoxale, voilà. À la fois l'impératif de penser, et en même temps, toute une série, disons, de distorsions qui perturbent, disons, le cours normal de la pensée.
On est sans arrêt en train de changer de contexte.
Moi, j'ai fait des équipes de
on n'est pas capable de faire. Enfin, aujourd'hui, on est une matinée au bureau. On ne peut pas passer plus de 20 minutes à faire quelque chose en continu.
Alors, tout ce qu'ils font les gens, ils amènent le travail chez eux. Parce que le samedi, au moins. Non, mais je te dis, ce qu'ils font, je vois sur scène. Moi. Même qu'en disant quelque chose, ou les gens se disent, de réflexion, mais ils gardent ça pour le samedi.
Il y a aussi des gens qui restent à la maison. Dans l'équipe, il y a des gens aujourd'hui, j'y reste parce que vraiment, j'étais arrivé. Ah, j'avais ce que pour moi.
Là, moi, c'est pour ça que le télétravail, on peut dire du bien et du mal. Mais moi, je suis pour une forme de télétravail où quand on a des choses compliquées à faire, à lire des documents, à faire des choses concentrées, ben, on reste chez soi. Et puis l'après-midi, on va en réunion.
Le télétravail, c'est une autre
chose. On reste chez soi une demi-journée.
HP, ils ont à peine éliminé tout le télétravail. Ils avaient 5000 personnes.
Oui, mais ça, c'est toujours pour contrôler les gens.
Voilà, ils sont en train de tout casser. Il y a une inversion, une marche en arrière sur le télétravail. Parce qu'il n'y a pas de modèle social avec. Un modèle de contrôle, un modèle d'organisation, etc. Et il y a cette peur que l'autre, tu n'as pas de tout le monde pas. Qu'est-ce qu'il fait
à ce moment? C'est rapport de contrôle. Par contre, moi, ce que j'avais dit tout à l'heure, qui était intéressant, c'est qu'effectivement, par rapport à la crise actuelle, par rapport à la sphère dirigeante, le problème, c'est le niveau de confiance. Et ce niveau de confiance tend à diminuer terriblement. C'est ça, c'est une des mesures de la crise qui vient, du milieu. Là, au moins, on sait qu'il y a une certitude, c'est que la confiance disparaît. Alors après, c'est de savoir si effectivement il y a adhésion à un projet ou pas. Mais au moins, ça, la confiance dans les gens, dans les personnes, disparaît. Après, il y a de se dire, le système ne peut pas changer. Bon, c'est une chose.
La confiance,
c'est un retour à des valeurs fondamentaux indépendamment
de la question.
C'est-à-dire qu'on travaille uniquement pour gagner sa vie. Donc, même dans les sphères cadres, etc., il y a un retour à des valeurs fondamentaux. Où il y a le temps libre, en France, il y a les 35 heures, c'est tout. Par exemple, petit à petit, ça va arriver qu'une des méthodes pour juger les gens, est-ce que tu prends tes 35 heures ou pas? Parce que plus tu prends tes 35 heures, moins t'es dans le système, à peu près.
Vous avez entendu ce qu'a dit Sarkozy? Il a dit un truc extraordinaire dans un document, j'ai entendu ça ce matin, je pense qu'il a dû donner ça, pour ça, qu'il veut changer les modalités du vote en France, qui est quand même la révolution incroyable. Il a dit, avec les 35 heures, les valeurs morales de la société vont changer.
Mais par exemple, une des justifications des augmentations individuelles qui sont là, la seule façon pour augmenter son niveau de vie, ont presque disparu, et une des raisons que les chefs de vie, c'est 35 heures. Donc il y a cette culpabilisation, ton niveau de vie baisse parce que vous ne voulez pas travailler.
Chez nous aussi.
Oui, mais par exemple, il y a des comptes épargne temps, oui, mais tu peux utiliser ton compte épargne temps. Il y aurait beaucoup plus de suicides, à mon avis, sans les 35 heures, surtout chez les cœurs. Parce que t'as des gens qui arrivent aussi au bout de la résistance physique.
Démontrer que c'est un pouvoir incroyable, tellement puissant, de mettre au genou, etc. Mais fort probablement, c'est ça aussi l'autre aspect de cette réflexion, il y a des pistes, des ruptures, des sabotages, des recherches,
des prises de conscience. La pressurisation à l'extérieur du travail physique, c'est énorme. Là, c'est fou, les gens commencent à transpirer, ils ont uniquement à voir l'idée.
Justement, je me pose la question, des informations. Lorsqu'on dit que les grandes entreprises, comme France Télécom, licencient un bloc, des licenciements importants, que d'autre part on dit qu'ils abandonnent tout le travail qui est dévolu à des agences, est-ce qu'il y a un taux de réemploi des gens qui partent, s'ils ont viré de France Télécom, dans l'ensemble des c'est sûrement des gens qui vont sur un chemin de longue
durée. Les consultants deviennent des consultants individuels.
Donc, c'est vraiment
le salaire. Il y a pas de salaire dans le niveau de vie. baisse de 30 à 40%. Il y en a qui déménagent, qui doivent vendre l'appartement parce qu'ils n'avaient plus à payer. Non, non, ça c'est dur, si tu perds.
Il n'y a pas de transbattement, c'est tous les jeunes qui, les nouveaux diplômés, qui rentrent dans les deux États-Unis.
Oui, parce que c'est des étudiants.
Non, c'est un master à Bar, ils sont employés sur des
tâches.
C'était pas la peine d'aller jusqu'à
là.
Mais d'autre part, c'était ça dans tout le temps.
50 ans, à partir de 50 ans, on ne veut plus rien.
Mais d'autre part, cette externalisation, si tu prends le cycle de l'automobile, les Fiat, Renault ne font plus de pas à choc depuis 20 ans.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Ceci dit, ils ont quand même fait revenir des usines en France. Hein.
Oui, mais ils font de l'assemblage, du marketing et de la vente. Et c'est ce qui va devenir de plus en plus, à mon avis, le rôle
des gros
opérateurs et même des grosses. Capgemini, parce que Capgemini vivra aussi sur le travail de sous-traitance, acceptant des petits mots, etc. Donc,
le pouvoir des gestionnaires, ce qu'il faut,
le PNL, comme les plantations.
Tout ça, en fait. Grosso modo, ces gens-là, ils ont, dans l'entreprise, ils ont en fait une sorte de faire-valoir qui est le directeur de marketing. En fait, c'est les deux, ensemble.
C'est la finance
qui. Oui, la finance, les PNL, c'est ceux qui font. C'est et à côté, c'est marketing. C'est de fait, c'est lorsqu'on dit sur la qualité. Effectivement, destruction de la qualité. Mais pour ça, ça doit être compensé par un discours marketing qui permet de passer. Justement, la concurrence n'est plus. La concurrence n'est plus au niveau de la qualité, mais la concurrence, elle est dans le savoir-faire marketing.
Aujourd'hui,
qui est plus subjectif.
C'est le marché des téléphones mobiles, c'est l'exemple ici.
Un service pour informatique d'une entreprise, bon, il va vérifier comment ça marche. Le marketing, il peut marcher pour la dimension symbolique d'une marchandise pendant un consommateur.
Hier, il y avait
un téléphone mobile, on ne répare plus rien. À ceux qui ne marchent pas, on l'abandonne, on en fait nouveau.
Il n'y a plus de produits.
Et en plus, on restreint les durées de cycle de vie des objets. Il y a 3 ans, un téléphone mobile, c'est encore 3 ans. Maintenant, c'est plus qu'un an de durée de vie. Au bout d'un an, on jette, on en charge.
Par exemple, c'est plus cher. Hier, il y avait dans Capital, il y avait une émission sur, donc, à un moment donné, sur Vita. Le filtrage de l'eau, donc de robinet, pour l'épurer. Brita a été pendant 20 ans première mondiale, jusqu'au moment où le brevet, des dizaines d'opérateurs sont venus pour fabriquer la même chose avec le brevet. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu les parts de marché. Bon, mais ils ont perdu des parts de marché. Et là, des parts de marché, en même temps, ils ont été bouffés par Terraillon, par d'autres firmes, ils sont à un problème. C'est-à-dire, bon, ils ne veulent pas que leur part de marché soit bouffée. Alors, ils ont trouvé une astuce qui n'est que du marketing, c'est plus du tout sur la qualité, alors qu'il y a la qualité allemande, ils sont aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obtenu des grandes surfaces de n'être plus vendues avec les autres. Mais juste à côté,
en tête de bordel,
à côté des bouteilles d'eau.
Ah, c'est du marketing.
Ça, c'est du marketing. Et ça, hop, et comme par hasard, ça monte.
Ah, oui.
Tous les jours, il y a des ménagères qui disent, bah tiens, je vais faire plus cher. C'est joli. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la valeur, c'est pas la qualité de vos bouteilles, parce qu'au niveau des couilles, sont à peu près les mêmes. En revanche, au niveau des couleurs, vous êtes un peu vieux jeu. Évidemment, pour vous dire trop flashy, donc vous avez du black français, donc ils ont changé, mais ils ont quand même mis des nouvelles couleurs. Mais pourquoi ils remontent? C'est parce qu'ils ont une intuition marketing en disant ben, on ne peut plus être vendu avec les autres, puisqu'on peut être vendu ailleurs.
Bon, sinon, il y a d'autres choses qui sont vraiment des marques, comme les médicaments génériques.
Alors, pour revenir à la suite d'un service, c'est beaucoup plus grave.